Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Dans notre société un peu complexe, en crise, on a tendance à aller chercher des solutions ailleurs. Et on voit, depuis un petit moment, l'effervescence de la méditation, du yoga. On essaye de prendre ce qu'il y a de meilleur dans la culture bouddhiste, mais sans trop vraiment connaître cette culture. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une femme assez extraordinaire, qui s'appelle Marion Chaigneau-Dupuis, qui à 16 ans est partie en Inde et à 18 ans est partie au Tibet. Elle a passé 22 ans dans un monastère tibétain à apprendre la culture bouddhiste. Et en plus de ça, c'est la seule européenne à avoir grimpé 3 fois l'Everest. Et si ce n'était pas suffisant, elle a aussi, avec une équipe évidemment, enlevé 10 tonnes de déchets du mont Everest. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Respire, tu es vivante ». Et avec Marion, on parle de l'occidentalisation de la culture bouddhiste, on parle d'être une femme dans un monastère, on parle aussi évidemment de son exploit, mais on parle aussi d'une chose qui pour moi est essentielle, qui est quand on monte l'Everest et qu'on est dans des conditions extrêmement dures pour sa survie, qu'est-ce qu'il devient de sa spiritualité? Est-ce qu'on arrive à maintenir ou est-ce que, comme un animal justement, on revient à des instincts plutôt grégaires? C'est une conversation hyper intéressante, je pense. Marion, elle est très profondément sincère, humaine. Moi, j'ai adoré l'enregistrer, j'ai adoré la rencontrer d'ailleurs. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, volant, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Marion.
Bonjour Greg, hein. Bonjour à tous.
Comment veux-tu?
Bien, bien, bien.
On rigole parce qu'on a ça fait 3 fois qu'on réenregistre parce qu'on a des petits problèmes techniques, mais c'est pas grave. Marion, tu as une vie très particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense, et qui donne sans doute envie à pas mal de gens. J'aimerais d'abord peut-être comprendre comment à 18 ans, on décide de partir au Tibet et comment on y reste aussi longtemps, puisque aujourd'hui, t'as 40 ans, donc t'as passé
22 ans en Himalaya.
22 ans, oui, pardon, je suis nul en calcul. T'as passé 22 ans en Himalaya, donc comment on part à 18 ans et comment on y reste aussi longtemps, en fait?
Ouais, déjà, je suis partie une première fois quand j'avais 16 ans, mais j'y suis pas restée. Je suis restée le temps des vacances scolaires. J'étais entre la seconde et la première dans le système d'école française. Et je me suis retrouvée à Calcutta. J'ai découvert la vie des bidonvilles avec les maladies les plus, on va dire, terribles pour l'humain, qui est complètement déformé avec la lèpre ou avec la tuberculose ou avec des grosses tumeurs. Et j'ai découvert vraiment la souffrance, on va dire, sans aucun filtre. À ce moment-là, je retourne en Occident, en Europe, chez mes parents. Et là, en fait, le confort de la vie occidentale m'est très difficile, même s'il y a de la souffrance tout autour de moi, mais je trouve qu'il y a une sorte de torpeur, d'endormissement, et je me retrouve plus, en fait, dans cette vie-là. Et donc, tout m'attire vers les traditions orientales pour me retrouver quelque part dans cette connexion à cette souffrance que j'ai vécue à l'état brut à Calcutta, mais dans une recherche intérieure. C'est-à-dire que je réalise petit à petit que cette souffrance, elle n'est pas que à l'extérieur. Je la vis aussi dans mon corps, dans mes émotions, dans l'être relationnel que je suis. Et petit à petit, je tombe dans la marmite des traditions spirituelles du bouddhisme tibétain en Occident, avec des centres bouddhistes. Et je vois beaucoup de personnes un peu à la dérive aussi qui se cherchent, qui cherchent des réponses à des questions existentielles. Et puis, la réponse que je vois dans les centres bouddhistes en Occident ne fait pas complètement écho à cette radicalité que je ressens en moi de vivre en fait l'expérience de cette souffrance, mais dans une totalité qui n'est pas simplement intellectuelle ou on va dire filtré avec tout un apparat de culturel d'une tradition qui est exportée et j'ai envie de voir comment les gens qui vivent dans cette tradition à l'origine la source l'incarne au quotidien dans un mode de vie. Donc je décide à 18 ans de partir là-bas en Himalaya pour faire mes études à Darjeeling, donc à 18 ans. Et là, je suis prise dans un monastère bouddhiste pendant 4 ans pour me rendre compte vraiment de comment cette transformation intérieure, depuis ce contact avec la souffrance, dans l'ouverture et la présence entière et radicale, complète à cette souffrance, permet de la transformer en compassion et que cette transformation, en fait, est un chemin. C'est le chemin altruiste, c'est le chemin bouddhiste, c'est le chemin de la rencontre avec tous les aspects de soi-même, y compris les aspects les plus sombres et les plus cachés, et les plus, on va dire, difficiles à aller rencontrer quand il faut enlever tous les filtres, en fait, toutes les constructions, les barrages que je me suis construite dans mon éducation, dans mes relations avec les autres. Et pour déconstruire tout ça, c'est un long chemin, une école qui demande beaucoup de discipline pour la déconstruction. Et le contexte d'un monastère bouddhiste dans l'Himalaya, à côté de Darjeeling, donc c'est dans les contreforts de l'Himalaya, côté indien, est particulièrement propice à cette transformation. Voilà. Et après, bon, il y a tout un long parcours qui m'a fait partir du monastère du côté indien de l'Himalaya pour passer de l'autre côté tibétain de l'Himalaya, donc le Tibet en Chine, où j'ai